À 8h48, on discute politique américaine et des nouvelles américaines avec Valérie Beaudoin, chercheure associée à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Bonjour Valérie.
Bonjour Mathieu.
On revient sur l'affaire Khashoggi, évidemment, qui retient l'attention encore une fois. Puis là, les changements de version, une après l'autre, de la part du régime saoudien. Même le président Donald Trump, contrairement à ce qu'il avait dit publiquement, semble en tout cas pas vraiment croire la version officielle qui a été rendue là.
Quelle histoire, Mathieu. Je ne sais pas si, à part dans un film, tu as déjà vu quelque chose qui ressemble à ça, cette histoire-là. Ça a pas de bon sens, là.
Alors, mais de devenir aussi public, tu sais, des histoires où on se dit, bon, des régimes qui ont participé à des assassinats commandés, ça s'est déjà passé, mais devenir aussi public et rapidement, ça, c'est une autre affaire, par exemple.
Exactement. Donc, c'est un journaliste qui travaillait pour le Washington Post comme pigiste. Bon, on rappelle là, qui aurait été assassiné par l'Arabie Saoudite dans le consulat, à même le consulat, dans des détails assez scabreux qu'on redonnera pas ici nécessairement. Et là, on a des petits détails au compte-gouttes là, qui sortent. Ce qu'on sait, c'est que l'Arabie Saoudite a diminué son enquête pour savoir si c'était eux les responsables de la mort de ce journaliste-là qui a quitté l'Arabie Saoudite il y a quelques années. Et finalement, ce qu'ils ont dit, c'est « Écoutez, on confirme qu'il est bel et bien mort. Il n'est pas disparu, comme on avait dit au début, après être allé au consulat en Turquie. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une bataille avec les poings et que finalement, ça a mal tourné. Alors, on aurait fait une prise et on l'aurait étranglé par accident. Il serait donc décédé comme ça et on aurait demandé à une tierce personne, un collaborateur, c'est comme ça qu'on l'a nommé, pour disposer du corps. Et ça, c'est pour justifier pourquoi le corps aurait été démembré. Alors, c'est comme s'il voulait un peu se laver les mains en disant, écoutez, c'est un accident puis c'est pas de notre faute après si le corps a pas été disposé de façon normale. Et là, Trump qui a défendu toute la semaine l'Arabie Saoudite, ses proches alliés en disant, ben écoutez, on va attendre, si vous êtes innocent jusqu'à ce qu'on prouve le contraire, rappelons-nous qu'on a des ententes militaires avec eux, etc., etc. Et là, il a dit en entrevue au Washington Post hier soir, ben écoutez, c'est clair qu'on nous a menti, c'est clair qu'il y a des faussetés qui ont été dites du côté de l'Arabie Saoudite, mais je ne peux pas encore confirmer que le prince héritier Mohamed Ben Salman, qui est un allié des États-Unis, a commandé directement cet assassinat.
Et sais-tu, en plus, je lisais ce matin dans le Washington Post, c'est l'éditeur du journal en disant, écoutez, là, que, en parlant de Jamal Khashoggi, on dit qu'il aurait été impliqué dans une bataille. Eux, ils disent c'est de la foutaise complètement. Ils croient pas une minute là, la version qui a été rendue publique.
Ah, tout à fait. Et pourquoi est-ce qu'il y aurait eu 15 personnes environ qui ont pris l'avion, qui se sont rendus des gens des services secrets saoudiens? Il y avait un médecin légiste qui se sont rendus pour rencontrer cette personne-là à l'ambassade. On dit qu'on voulait seulement le ramener en Arabie Saoudite. Et pourquoi on a des gens de la garde rapprochée du prince héritier? Ça n'a pas de sens. Pourquoi lui, est-ce qu'il aurait essayé contre 12 à 15 personnes de se battre? On dit que ça tient pas la route. Et là, ce qui est intéressant, Mathieu, c'est que ça devient un symbole. Parce que le journaliste en question, ce qu'on disait d'ailleurs dans le Washington Post, encore une fois, c'est que c'était pas le plus des dissidents, là. C'était pas lui la plus grande critique. Il a déjà été près du pouvoir quand il était en Arabie Saoudite. Mais là, il se disait, il est temps qu'on ait de la démocratie, le droit des femmes, ça m'importe, etc., etc. Mais là, on en a fait un symbole avec son dessin en se disant, ben, écoutez, on est vraiment loin de faire du progrès là-bas.
Autre chose cette fois, les États-Unis qui ont annoncé qu'ils allaient se retirer d'un traité sur les armes nucléaires qui date quand même de la guerre froide avec la Russie.
Oui, exactement. Un traité qui avait été signé en 87 par Ronald Reagan et Gorbatchev. Et ça empêchait certains missiles à longue portée. Parce que si on se replonge dans la guerre froide, on avait peur que la Russie atteigne des villes occidentales, atteigne les États-Unis avec des missiles. Et là, Donald Trump, ce qu'il a dit, écoutez, on le voit, la Russie est encore en train d'en construire. Il y a des missiles à longue portée. Pourquoi nous, on serait un peu les niaiseux là-dedans en se disant, ben, on le fera pas de notre côté et on respecte le traité. Alors, ce qu'il a dit, c'est si eux sont capables de le faire, ben nous aussi, on ne va pas s'empêcher de construire de l'armement à longue portée ou d'autres types de missiles qui est interdit par ce traité-là. Et on va faire ce qu'ils font. D'ailleurs, la Chine aussi, qui n'est pas partie à ce traité-là, mais qui le fait aussi. Alors, les États-Unis, bien sûr, qui sont toujours un peu en compétition avec la Russie et la Chine pour l'armement, vont décider de construire peut-être d'autres missiles.
Autre élément aussi, bon, on est dans cette... Il y a une vague migratoire là, de gens qui sont partis du Honduras, du El Salvador et qui remontent tranquillement. Ils sont à la frontière mexicaine. Et là, ça, aux États-Unis, ça fait réagir évidemment la présidence en disant... Il y a même eu une rencontre entre Pompeo cette semaine et son homologue mexicain pour tenter de contrôler ces milliers de personnes qui remontent vers les États-Unis.
Oui, on utilise l'immigration illégale encore une fois comme une espèce d'arme pour mobiliser les troupes républicaines parce que l'élection approche et on se dit les démocrates vont sortir, ils vont aller voter. Alors nous, comment est-ce qu'on peut, attiser un peu notre base et on s'est prouvé que l'immigration illégale pour les républicains, c'est une question vraiment qui les interpelle, les femmes, surtout le vote des femmes. Et là, ce qu'il fait, c'est vraiment, il retourne dans la ligne dure là, qu'on avait vu à d'autres moments dans sa présidence. Il a même menacé de fermer la frontière avec le Mexique si le Mexique n'agissait pas. Et il accuse même les démocrates de financer les caravanes d'immigrants qui partent du Honduras pour se rendre jusqu'au Mexique, éventuellement aux États-Unis. Alors maintenant, il est un peu du côté de la théorie de la conspiration, que ce serait directement des démocrates qui donneraient de l'argent pour que les migrants illégaux arrivent ici autour de la journée de l'élection pour faire mal paraître Donald Trump. Alors, c'est ce qu'il répète dans les rallyes, c'est ce que les gens près de lui ou certaines personnes qui veulent se faire élire vont répéter, que c'est vraiment une machination des démocrates d'avoir ce flot de migrants illégaux. Alors, s'il vous plaît, républicains, sortez le 6 novembre et allez voter. Alors, c'est vraiment instrumentalisé, je dirais.
Oui, évidemment, les gens quittent le Honduras à pied pour remonter parce qu'ils veulent influencer les midterms. Ça, c'est beaucoup connu.
Exactement. Et on sait bien, Mathieu, qui auront le droit de voter aussi le 6 novembre.
Ça, c'est clair. Mais c'est n'importe quoi, là. Je veux dire, ils sont dans une situation précaire de vie. Puis le temps qu'ils rejoignent, de toute façon, les États-Unis à pied, ils en ont pour un certain temps encore, là.
Ah, ben, c'est clair. Il y en a là-dedans qui vont être blessés. Il y en a qui peuvent laisser leur vie.
Ah, il y en a qui vont crever de faim, ça, c'est clair. Là.
Exactement. Ils vont jamais se rendre. Ils vont peut-être se rendre. Il y en a qui arrêtent au El Salvador. Il y en a qui vont arrêter au Mexique. Il faut dire qu'il y a beaucoup de ces migrants-là, et ça, on le dit pas souvent, qui veulent immigrer au Mexique et non aux États-Unis. Ils veulent pas se rendre plus loin, justement, par peur de se faire déporter, d'être séparés. Alors, c'est pas le but de tout le monde de se rendre jusqu'aux États-Unis.
Mais les images étaient assez saisissantes quand même, Valérie, quand on regardait ça. C'est quand même de gros contingents. On parle de milliers de personnes.
Oui.
Puis le Mexique avait fermé des clôtures de certains ponts. Mais les barrières n'ont pas tenu, là, carrément. Tellement il y avait de gens, tellement il y avait de pression qui a été faite. C'est une réalité. Là. C'est quand même ce flot-là, il n'est pas imaginaire. C'est pas tiré de l'imaginaire.
Non, tout à fait. Il y a des caravanes qu'on dit qu'il y a environ 4000 migrants qui tentent de se rendre. C'est énorme. Mais ces gens-là, c'est savoir c'est quoi l'information qu'ils ont, qu'est-ce que les passeurs leur disent, est-ce qu'ils ont des garanties de se rendre plus loin. C'est ça aussi toute la question. Puis c'est assez triste aussi.
Hey, dernière chose en terminant, il nous reste une minute. On peut mourir et être élu quand même.
Oui, ben c'est une nouvelle qui date de cette semaine, mais qui illustre bien certaines règles assez loufoques électorales aux États-Unis. Alors, il y a celui qu'on appelle le pimp du Nevada. Un candidat trumpiste, qui a des maisons closes au Nevada où la prostitution est légale, dont le Love Ranch, qui est décédé cette semaine dans son sommeil. Mais là, ce qu'on dit, c'est que lorsqu'on décède après 17 heures, le quatrième vendredi de juillet de l'année où le scrutin doit se tenir, alors j'espère, Mathieu, que tu as bien suivi la règle.
Okay.
Les bulletins exprimés en faveur du défunt doivent être pris en compte pour déterminer l'issue de l'élection. Alors, on dit qu'il est trop tard pour imprimer d'autres bulletins de vote et de toute façon, il pourra être élu. Et par la suite, on trouvera un candidat républicain pour prendre sa place si c'est lui qui gagne. Mais ça devrait être le cas. Là, on est dans un milieu rural du Nevada.
C'est un peu niaiseux quand même.
Et voilà.
Merci beaucoup, Valérie.
Ça me fait plaisir,
Salut,
Mathieu.
Salut, Valérie Beaudoin qui était avec nous, chercheur associé à la chaire Raoul d'Endurant. On reçoit des invités, dont Christian Page, d'ici la fin de l'émission, et des extraits d'entrevue avec Christophe Maé.